Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, alors que nous sommes en plein carême, cela ne vous a pas échappé, alors que nous sommes dans l'attente, voici que déjà la liturgie nous fait entendre un texte de consolation qui nous fait entrevoir le ciel. Nous méditons aujourd'hui la transfiguration de notre Seigneur, c'est-à-dire quand il se montra dans toute sa gloire, dans sa nature humaine, à travers laquelle fut visible sa nature divine. Alors, je voudrais m'attacher à deux choses en particulier. D'une part, voir comment Dieu appelle à le voir, et d'autre part, pourquoi Dieu appelle à le voir. Tout d'abord, comment Dieu appelle ? D'abord, il se manifeste et ensuite il y a différentes voies. Il se manifeste ici à ses apôtres, ceux qu'il a choisis, j'y reviendrai, c'est-à-dire ceux à qui il a choisi de se révéler d'une manière spéciale. Vous le savez, mes bien chers frères, si nous écoutons la transfiguration aujourd'hui, c'est que le Seigneur s'adresse à tous et il veut vous manifester sa gloire. N'ayez pas peur dans votre prière d'être audacieux et de solliciter de voir cette gloire. De la voir, bien sûr, nous l'espérons, face à face un jour dans le ciel, mais déjà ici-bas, d'entrevoir, ne serait-ce que l'espace d'un instant, d'un éclair, que vous puissiez, d'un point de vue, par une grâce spirituelle, intellective ou sensitive, comprendre, voir quelque chose de la gloire de Dieu. Puisque nous le méditons, demandons-le. Le Seigneur se manifeste à tous et c'est tous qu'il appelle. Vous le savez, vous êtes tous appelés à la sainteté, vous êtes tous appelés à voir Dieu. Non pas que tout ça soit ordonné d'avance, ou plutôt si c'est ordonné, mais c'est ordonné avec votre liberté, c'est-à-dire que cette prédisposition que le Seigneur fait de le voir, eh bien, il vous appartient de le choisir. Il vous appartient de faire le choix de Dieu, c'est-à-dire de choisir ce que Dieu a choisi pour vous, c'est-à-dire le ciel. Oui, nous sommes tous appelés à la sainteté, mais ici, quelque chose de particulier nous appelle à contempler les appels particuliers. Chacun, tout le monde est appelé, mais chacun est appelé. Chacun parce que nous sommes tous particuliers aux yeux de Dieu. Quelle est la vocation la plus commune et la plus naturelle ? Pour voir Dieu. Eh bien, c'est le mariage. C'est évident. Au cœur de l'homme et de la femme, au cœur de tous, Dieu a mis un appel à n'être pas seul, mais à s'épauler et à se trouver l'un l'autre pour aller vers Dieu. C'est ça la vocation au mariage. Autant dire que ce n'est pas simplement quelque chose de ce monde et que, accessoirement, parce que vous seriez chrétien, vous viendriez chercher une bénédiction. Non. C'est un véritable chemin de sainteté l'un avec l'autre pour trouver Dieu, dans lequel les époux sont chargés de se montrer l'un l'autre le Christ, d'être le Christ l'un pour l'autre et de se montrer le chemin du ciel. Alors c'est l'appel général, naturel, qui gît au cœur de tout homme. Mais vous le savez, il y a des appels particuliers et ici, le Seigneur prend des apôtres avec lui. Vous le savez, le Seigneur a fait plusieurs choix particuliers. Parmi tous ceux qui le suivent, il en institue 72 comme ses disciples. On y voit déjà les prêtres. Il les enverra deux par deux en mission. Et parmi ceux qui le suivent et parmi les 72, il va encore en instituer 12. On y voit déjà les évêques, ceux qui seront les colonnes de l'Église, ses apôtres. Et oui, mes bien chers frères, ne vous le laissez pas dire par quiconque ne comprend rien ou plutôt ne veut rien comprendre à l'Évangile. L'Église hiérarchique n'est pas née dans le cours des temps d'une invention humaine. Elle a été fondée par le Christ déjà dans sa constitution. Elle est divine. Alors, pour cette hiérarchie, le Seigneur appelle des gens qui ne sont pas mariés. D'abord, avant la hiérarchie, j'ai oublié de mentionner, il y a ceux qui restent célibataires par choix délibéré, parce qu'ils n'ont pas trouvé de possibilité de se marier et qu'ils, je les invite à choisir alors ce célibat pour ne pas le subir, mais en faire une offrande à Dieu, même dans leur cœur, même privé. Et puis il y a les veufs et les veuves, vous le savez, c'est le plus ancien ordre dans l'Église, l'ordre des veuves, qui est une offrande, véritablement un chemin vers Dieu. Mais il y a aussi ceux qui choisissent le célibat apostolique pour le service de l'Église. C'est très simple, il y a d'une part les religieuses et les religieuses qui choisissent ce célibat pour manifester l'eschatologie, c'est-à-dire qu'ils vivent déjà uniquement de Dieu. Voilà pourquoi ils prononcent les vœux de pauvreté, obéissance et chasteté, abandonnant complètement le monde, ne voulant vivre que de l'image que Dieu peut leur faire connaître sur terre. Et puis, il y a les prêtres qui sont appelés à gouverner l'Église. Alors, si je vous dis ceci, mes bien chers frères, c'est que vous savez aujourd'hui que ce célibat apostolique est battu en brèche. Et c'est normal, car il est une honte pour ce monde qui ne veut pas vivre. Ne vous laissez pas faire accroire, mes bien chers frères, que le célibat apostolique serait un problème moral. Mais d'où ? Il y a à Paris 2 millions de personnes, il y en a un tiers qui sont célibataires. Alors ce n'est pas les 400 prêtres de Paris qui sont un problème moral, si le célibat est un problème moral. Ne vous laissez pas duper par le monde. Hélas, les péchés et les péchés graves que nous avons devant les yeux ne sont pas l'apanage des célibataires. Je me permets de vous rappeler que 93% des actes graves que vous avez en tête et qu'on nous met sous les yeux en ce moment sont le fait, c'est plutôt des hommes, il faut bien le dire, d'hommes mariés. Alors, ce n'est pas un problème de célibat, c'est un problème de dépravation morale. Et il nous faut combattre, y compris dans l'Église, cette dépravation et retrancher les membres pourris de son corps. Ne vous laissez pas enlever la grâce du célibat apostolique qui est le don total à Dieu, la configuration parfaite à Jésus-Christ notre Seigneur qui a voulu en sa personne l'instituer. Vous le savez, le monde est d'une mauvaise foi particulière, ne voulant jamais regarder dans sa propre pourriture, mais la cherchant partout chez nous, de sorte de pouvoir abattre l'Église de Dieu. Ne vous y trompez pas, s'il y a un vrai combat contre le péché, il y a aussi à l'intérieur de l'Église, parce qu'à l'intérieur de mon cœur, tout simplement, il y a un vrai combat contre l'Église de l'extérieur pour la battre et la faire disparaître. Voilà, mes bien chers frères, ce que l'on peut méditer, c'était le premier point que je voulais relever dans cet appel particulier que le Seigneur fait de ses apôtres, de certains d'entre eux même, qu'il institue pour une charge. Car évidemment, quand le Seigneur donne une vocation particulière, que ce soit les disciples, les apôtres, ou même ici juste les trois, Pierre, Jacques et Jean, c'est parce qu'il va leur donner une mission particulière. S'il a voulu leur montrer la transfiguration, la gloire de Dieu, c'est qu'il a choisi les mêmes pour les emmener à Gethsémani et leur montrer sa déréliction et combien il va pleurer, suer du sang et de l'eau, abandonné dans son humanité qu'il sera. Alors, mes bien chers frères, venons-en à un sujet plus sympathique, c'est pourquoi ? Pourquoi Dieu se manifeste ? C'est pourquoi, dans quel but et pourquoi, quel motif ? Pourquoi, c'est très simple, pour nous amener à la connaissance de Dieu. Ici, le Seigneur, dans sa transfiguration, se manifeste avec tous les signes de la divinité. D'abord, c'est le blanc incroyable, tel qu'il n'y a aucun blanc, dit l'Écriture. C'est difficile à décrire une vision divine. C'est-à-dire un éblouissement total, la lumière dans son état pur, comme il y aura à la résurrection les anges. Et puis, il y a Moïse et Élie, qui représente toute l'Écriture à ce moment-là. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. C'est-à-dire qu'avec Élie et Moïse, il y a là toute la révélation qui a été faite au peuple juif. Pierre de Blois, un mystique du XIe siècle, dira « Moïse représente la miséricorde en raison de la loi et Élie représente la justice en raison de la parole prophétique adressée au peuple. » Et ce n'est pas tout. Il y a la voix du Père qui se fait entendre, une manifestation, une théophanie divine, une théophanie, pas répétée. Donc Dieu se manifeste en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et cette parole s'incarne dans le Christ. Nous l'avions déjà entendu au baptême du Seigneur. Enfin, et c'est Pierre qui nous le dit, Pierre a compris que Dieu était présent en personne ils se voilent la face, ils ont la face contre terre, mais Pierre a encore le courage de dire « Faisons trois tentes ». Vous avez peut-être entendu en latin « tabernaculum », c'est-à-dire là où Dieu habite, là où Dieu réside. Comme le peuple hébreu a eu l'habitude, au cours de son exode, de transporter l'arche du Seigneur où Dieu habitait parmi eux, dans une tente, dans un tabernacle, eh bien nous aussi, nous avons le Seigneur présent dans le tabernacle, ici réellement présent, afin que nous aussi nous mettions la face contre terre et tentions de comprendre quelque chose de sa gloire. Si le Seigneur nous appelle à voir sa gloire, c'est que c'est notre destinée, c'est là le but de notre vie, le but final. Et tout le reste doit y être ordonné. Votre travail, c'est une vocation. Votre état de vie, le mariage, la prêtrise, la vie religieuse, tout doit être subordonné au but ultime qui est le nôtre, voir Dieu. Alors pour quel motif ? Pourquoi le Seigneur se manifeste ainsi ? Eh bien tout simplement, mes bien chers frères, pour nous fortifier. Nous qui sommes sur ce chemin du carême, nous qui sommes dans le temps de manque et de pénitence, nous à qui il manque Dieu, pour creuser en nous ce désir de Dieu, mais en même temps pour nous fortifier. L'Église, vous le savez, n'est jamais que la réalisation temporelle de la présence du Christ dans le monde. Elle est le corps du Christ manifesté jusqu'à la fin des temps, dit Bossuet. Elle est la congrégation de tous les chrétiens, les membres de son corps, qui manifestent la présence de Dieu. Alors oui, mes bien chers frères, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Église, jusqu'à la fin des temps, va vivre la crucifixion jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ est crucifié jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est en agonie jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas une belle parole, c'est à nous de le vivre. Ne soyez pas étonnés, mes bien chers frères, si justement dans votre corps qui est l'Église, vous êtes bafoués, insultés, raillés, si l'on vous crache dessus, c'est normal. C'est le corps du Christ crucifié dans sa passion que nous voulons contempler dans sa gloire, car nous savons que telle est sa réalisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien chers frères, en plein carême, l'Église nous a donné de méditer la transfiguration afin que nous aussi, comme Pierre, Jacques et Jean, nous ayons dans notre cœur la certitude et la beauté de la gloire de Dieu qui nous sera donnée à travers cette vallée de larmes et de combats qui est ce monde. Ainsi soit-il.